Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment les traditions culturelles participent-elles à la préservation de l'océan ? Avec Frédéric Schluss.
Quand on s'estime, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et si l'adage s'inversait concernant la gestion des ressources maritimes, où nous aurions beaucoup à apprendre de peuples qui ont un rapport intime à la mer, comme les Polynésiens ? C'est à ce renversement de regard que va nous inciter Frédéric Schluss. Vous êtes anthropologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, nos mythes européens, des antiques grecs et romains à Moby Dick, ont en commun de pointer la mer comme un espace à la fois terrifiant et mortel. Vous qui connaissez bien la Polynésie et ses communautés, est-ce qu'elles ont des mythes et légendes aussi sombres que les nôtres pour compter l'océan ?
Effectivement, dans notre monde occidental judéo-chrétien, on considère la mer comme une relique menaçante du déluge, comme l'exprime l'historien Alain Corbin. On le voit, comme vous l'avez dit, avec Moby Dick, Créature effrayante, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, et il y a un poème aussi de Victor Hugo, Les paysans au bord de la mer, qui évoque des vagues pleine de sang. Donc on voit bien que c'est un espace à la fois inconnu mais aussi terrifiant auquel on fait face. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec la population marquisienne, donc en Polynésie française, un des 5 archipels, et ils considèrent la mer vraiment très différemment. On le remarque dans les récits et légendes. Je vais vous donner quelques exemples. Une des 6 îles habitées des Marquises, l'île de Tawata, est vraiment issu de la mer et on reconnaît son mont, c'est la tête d'une pieuvre. Les différentes vallées sont symbolisées par l'ensemble des tentacules de la pieuvre. Il y a une légende qui est très très connue, c'est celle du cochon Makahanui. Alors c'est une histoire entre deux îles, l'île de Ivaoa et puis l'île de Wapo. Et le maître de ce cochon, qui est un énorme cochon, était sur l'île de Ivaoa et a appelé son cochon pour pouvoir nourrir la population. Et ce cochon, qui est vraiment un énorme cochon, a sauté dans la mer, a nagé entre les deux îles. Et pendant qu'il nageait, plein de carangues et de bonites, de poissons, se sont accrochés à ses poils. Il est arrivé, il a posé la patte sur l'île de Wapo et il s'est secoué et tous les poissons sont tombés, ce qui a pu nourrir les habitants. Alors, à la fois, on voit l'empreinte de la patte à son départ sur le rocher. Et on voit l'empreinte de sa patte quand il est arrivé, quand il a mis pied sur terre. En lien avec cette légende, on peut se demander si l'habitude qu'avaient les pêcheurs avant les leurs en plastique de garnir leurs hameçons de poils de cochon, est-ce que c'est lié à cette légende pour avoir plus de bonites ? C'est une question qu'on peut se poser. Rapidement, d'autres légendes, c'est un grand tiki en pierre qui se trouve dans la forêt, le tiki de Moéné, qui descend de la forêt pour pouvoir indiquer où sont les poissons pour que les pêcheurs puissent aller pêcher. Et enfin, il y a sur l'île de Ivaoa une pointe spécifique qui est vraiment identifiée par l'ensemble de la population, qui est la pointe QQ et qui est la pointe de départ des âmes. Et on voit bien à quel point la mer, c'est à la fois la matrice originelle et aussi le réceptacle des morts.
Les mythes, en fait, c'est une mise en fiction de quelque chose qui existe dans le réel. Donc, qu'est-ce que ces mythes nous racontent du rapport de ces populations avec l'océan ?
Le rapport de ces populations avec l'océan, il est vraiment lié aux grandes migrations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples polynésiens viennent de différentes migrations en provenance de l'Asie du Sud-Est qui a permis de peupler l'ensemble des îles du Pacifique. Alors ça s'est fait sur des temps très longs avec plusieurs vagues. La première vague qui est documentée, c'est une vague vers 1600-1500 avant Jésus-Christ et qui a permis de coloniser la Micronésie, la Mélanésie et puis la Polynésie occidentale. Il y a une deuxième vague qui a permis de coloniser cette Polynésie orientale. On s'est aperçu que les Marquises ont été colonisées vers 150 ans avant Jésus-Christ. Certains pensaient que les Polynésiens avaient un peu atteint les îles au hasard. Et on sait aujourd'hui qu'ils avaient un art de la navigation extrêmement précis qui permettait justement de retrouver ces îles. Art de la navigation avec une connaissance très précise des milieux marins, des courants, des oiseaux aussi, des poissons, des mammifères marins qui pouvaient leur indiquer de la proximité de terre, mais aussi une très très grande compréhension du ciel. Ils nommaient l'ensemble des étoiles qui leur permettaient de se guider et aussi une grande connaissance des vents. Donc on a vraiment affaire à un peuple de navigateurs. Il y a un auteur, Epeli Aofa, qui dit qu'il y a, je vais citer, un océan de différence de voir le Pacifique comme des îles dans une mer lointaine ou une mer d'îles. En fait, ce qu'il veut expliquer, c'est que c'est vraiment une mer qui relie. L'océan est un espace d'où on vient et d'où on part. Et on est très loin de notre conception occidentale d'une mer qui serait frontière entre différents pays ou entre différentes terres. Cet océan Pacifique relie les peuples. Quand j'étais aux Marquises, ils faisaient souvent référence aux Rapa Nui, les gens qui habitent l'île de Pâques, aux Hawaïens comme leurs cousins qu'ils connaissent, dont ils connaissent les légendes et qu'ils rencontrent régulièrement. Mais c'est aussi entre les îles des Marquises, il y a donc 6 îles habitées, des voyages incessants entre les îles pour aller voir sa famille, pour faire des compétitions sportives ou aussi les enfants qui vont à l'école en bateau quand il n'y a pas de route. Les populations ont développé un lien intime et sacré avec l'océan. Il est constitutif de leur identité. C'est le peuple de l'océan, comme il se désigne, à travers les grandes migrations maritimes et aussi les circulations permanentes. Donc on a vraiment affaire à un peuple qui se qualifie de peuple de l'océan et c'est une identité extrêmement forte pour eux et qu'ils revendiquent.
Alors effectivement, contrairement à nous, ils ont un lien intime et même sacré, vous venez de le dire, avec l'océan. Comment est-ce que ça a façonné les relations qu'ils entretiennent avec les espèces marines ?
La mer est considérée comme un garde-manger. C'est la première chose qui est dite quand on parle de la mer et on s'aperçoit que tout le monde pêche. Les enfants avec leurs lignes sur le bord de la mer, les femmes qui ramassent des petits crabes, des poulpes à main nue, et évidemment après les pêcheurs qui sont sur leur bateau ou qui font de la chasse sous-marine. Ils ont une grande connaissance de la manière dont on peut aller pêcher et puis trouver les poissons. Alors c'est des savoirs qu'on appelle holistiques, c'est-à-dire que c'est des savoirs qui rassemblent plein d'éléments différents, la compréhension de l'éthologie des poissons, des courants, des hauts fonds. Mais aussi, ils utilisent des indicateurs terrestres avec, par exemple, la floraison des plantes. Quand les arbres qui ont des fleurs rouges fleurissent, c'est le temps d'aller pêcher les poissons rouges, les plantes à fleurs blanches, les poissons blancs. Et donc, on a vraiment une connaissance qui leur permet d'exercer leur activité de pêche. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que l'océan, il est en lien avec l'ensemble de la culture marquisienne, en l'occurrence, dans la langue, la manière de nommer l'ensemble des espèces, la pharmacopée. Voilà, il faut prendre des bains de mer quand on vient d'accoucher ou alors quand on a des problèmes de peau. Quand il y a un peu de pu dans les oreilles, on met des petits poissons qui viennent manger le pu. Il y a comme ça tout un tas de décoctions, inhalations qui se servent de toutes les ressources marines. Il est aussi recommandé de se plonger dans la mer quand on veut chasser les démons et quand un guérisseur l'a demandé. Donc on voit tout cet aspect pharmacopée, l'aspect artisanat aussi. Les anciennes peaux de tambour étaient faites avec des peaux de requin et tout l'artisanat, les bijoux qui sont réalisés sont faits avec des coquillages, mais aussi des vertèbres de requins ou de poissons, ou des dents d'un certain nombre de poissons. On l'a vu aussi, évidemment, dans les légendes, dans les danses, et c'est ce tout qui est extrêmement important dans la culture marquisienne. Un autre exemple pour s'éloigner des marquises, c'est dans l'archipel des Tuamotu. Là, c'est des archipels avec uniquement des atolls, alors que les marquises sont des îles hautes. Des études ont été faites sur la consommation de tortues. Donc la tortue, elle symbolise vraiment la longévité, la paix et la force. Les récits montrent que les tortues étaient présentes selon le bon vouloir des ancêtres qui accordaient ou pas à leurs descendants le fait de pouvoir profiter des tortues. C'était des animaux qui étaient extrêmement prisés, nourriture des souverains et souveraines des nourritures pour sa chair et puis sa graisse. Et lors de la pêche des premières tortues, il y avait des rituels extrêmement complexes pour pouvoir ne pas froisser les ancêtres et continuer à profiter de ces tortues et de leur abondance. Et donc, les premières tortues étaient interdites aux femmes, interdites aux catégories inférieures et souvent consommées en premier lieu par les vieillards parce que c'est eux qui font le meilleur lien avec les ancêtres. En fait, peu à peu, avec notamment l'économie qui s'est mise en place sur la vente de la chair de tortue, ces règles ont été transgressées. De plus en plus de tortues ont été pêchées. On a assisté à un déclin très fort des tortues. Alors la Polynésie a réglementé en 1990 pour l'interdiction totale de cette pêche et la protection des œufs de tortue, des sites de ponte. Mais certains habitants des Tuamotu pensent que c'est une punition des ancêtres parce que les règles ont été transgressées.
Alors on l'entend, il y a évidemment une myriade de fonctions allouées à l'océan, mais dont le garde-manger. Et à ce propos, depuis les temps anciens, les Polynésiens pratiquent le rahui. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit concrètement et quels sont les fondements de cette pratique ?
Alors le rahui a été décrit par les premiers voyageurs. C'est vraiment un mode de gestion d'une ressource pour un besoin futur. Un besoin futur qui peut être nourrir une famille de chefs ou pour une grande fête, une grande cérémonie qui est prévue. Les rahui concernaient aussi bien les espaces terrestres ou les espaces marins, de la ressource, les cochons par exemple, cochons sauvages, que l'on va chasser ou la pêche de poissons ou de tortues en mer. C'était un interdit qui était prononcé par un chef avec un caractère sacré, c'est extrêmement important, sur un territoire donné, le territoire de la communauté en question, et souvent des étoffes blanches marquaient l'entrée du rahui et sur une ressource aussi qui est bien identifiée. C'est différent des tabous qui sont en usage dans toutes ces régions, où là on a un interdit qui est permanent. Là c'est un interdit temporaire. Cet interdit, si on enfreint les règles, il y a des sanctions surnaturelles, mauvais sort, et là il y a une très très forte crainte de ces mauvais sorts, ou des sanctions plus tangibles qui sont données par la communauté à celui qui enfreint les règles. Ce rahui, on est vraiment pour la gestion d'une ressource et pas une gestion d'un écosystème. On ne peut pas plaquer nos formes à nous de gestion d'écosystème sur ces rahui. Et ces rahui ont disparu à la fois sous l'effet de la centralisation politique, des changements politiques extrêmement forts, de cette perte aussi de culture et de ce rapport au sacré, à la force, au mana, et aussi de l'économie marchande. On l'a vu réapparaître en Polynésie française en 1990 sur l'île de Rapa.
Alors nous, en Europe, nous n'avons pas de rahuis, mais en revanche, depuis le Moyen-Âge, on a les méconnus prud'homies en Méditerranée. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette organisation singulière de la pêche, comment est-ce qu'elle fonctionne ?
Alors bien sûr, on ne peut pas comparer les rahuis, où on a une société avec un caractère sacré très fort, et les prud'homies qui sont une organisation de pêcheurs. Mais c'est intéressant à décrire, ces prud'homies, elles remontent au Moyen-Âge. Elles sont présentes en Méditerranée et il y a un décret de 1859 qui délègue à ces prud'homies une part de la police des pêches sur la façade méditerranéenne. Et donc il s'agit pour ces prud'homies véritablement de gérer la pêche sur un territoire délimité par des attributions réglementaires, juridictionnelles et disciplinaires. C'était par exemple réglementer le nombre de sorties en mer, les mailles défilées ou alors avoir certains interdits saisonniers. Les prud'homies s'occupent principalement de la petite pêche et l'objectif qui est revendiqué, c'est de permettre à tous d'exercer leur activité en fonction des outils, des engins de pêche qui sont présents sur les bateaux et aussi de pouvoir vivre de sa pêche. C'est un système démocratique où les prud'hommes sont élus pour 3 ans et ils sont aussi assermentés et donc peuvent émettre un certain nombre de sanctions. Sur la façade méditerranéenne française, il y a 33 prud'homies qui sont présentes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, alors que les prud'homies avaient une action sur la ressource, préserver la ressource, permettre aux pêcheurs de vivre de leur activité, les prud'homies, en fonction des contextes, bien sûr, s'implique de plus en plus dans la gestion des écosystèmes et dans la gestion des aires marines protégées.
Comme les prud'homies en Méditerranée, le rahuis est toujours pratiqué en Polynésie, je crois, et avec quels bénéfices concrets ?
Donc le rahuis est aujourd'hui pratiqué en Polynésie française. Sur l'île de Rapa, le rahuis a été mis en place, mais c'est vraiment une réinvention. Déjà parce que le mot rahuis, il n'existe pas sur l'île de Rapa, parce qu'au Rapa, on parle une langue, la langue de Rapa, le réo oparo. Et donc le rahuis, c'est un mot véritablement tahitien. C'est uniquement sur le milieu marin, alors que le rahuis, c'était sur des milieux terrestres ou marins. Ce rahuis à Rapa, il a été décidé par la mairie. Puis, il y a un comité des parties prenantes qui s'est formé pour le gérer. Et un chercheur, Christian Kazarian, qui a travaillé sur cette île de Rapa, il note vraiment cette ressource qui est considérée par la population comme un bien commun et un fort aspect religieux qui permet de suivre ce rahoui parce qu'on a peur des sanctions sacrées. Les pêcheurs, de leur côté, identifient une augmentation du nombre de poissons, mais on n'a pas de chiffres parce qu'on n'avait pas un état des lieux avant et c'est une île très éloignée et on n'a pas d'état des lieux aujourd'hui. Il y a un autre rahoui qui a été mis en place en presqu'île de Tahiti. Les rahuis étaient très présents. Bon, c'est la langue tahitienne. La presqu'île de Tahiti, c'est un espace où il y avait des ancêtres très prestigieux et un statut très élevé de ces territoires. Et le rahuis a été mis récemment en place à la fois grâce à des experts traditionnels, donc qui sont issus de la population, et aussi par des chercheurs, notamment l'équipe de Tamatoa Bambridge. Donc ce rahoui, il insiste sur l'équité au niveau de la population. L'ensemble des parties prenantes sont bien représentées, mais à la différence de Rapa, il a un caractère plus administratif, moins sacré, et il y a un contrôle social fort. En fait, les gens regardent du bord de la mer s'il y a des personnes qui vont pêcher qui n'ont pas le droit et les dénoncent à la police. Donc, on n'a pas le même rapport à la sanction. Et on a davantage, dans ce cas, une préservation de la ressource, bien sûr, mais aussi de la biodiversité des écosystèmes. Mais les raouis ne fonctionnent pas toujours. Il y a des endroits où il y a des raouis qui ont tenté de se mettre en place, par exemple sur l'île de Mouréa, qui est l'île sœur en face de Tahiti. C'est une île où il y a beaucoup de résidences secondaires, où il y a une très forte activité touristique. Et donc là, il y a des enjeux extrêmement différents entre les activités touristiques, les pêcheurs, les systèmes de gestion des aires marines protégées qui ont été mis en place, parce qu'il y a 8 AMP. Il y a une forte connotation bureaucratique et les pêcheurs se sentent exclus de ce dispositif. Et donc, ça ne marche pas vraiment bien. Et en plus, il y a vraiment une forte diminution de l'imprégnation culturelle sur cette île. Et juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est de quitter la Polynésie. Il y a des textes très intéressants sur cette gestion des ressources communes. Un auteur, Garrett Harding, a parlé de la tragédie des communs en disant que si on laissait les individus faire, il y avait automatiquement une surexploitation des ressources et c'était la diminution, le déclin complet des ressources. En 1990, ce qui semblait indépassable, cette tragédie des communs, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie, a travaillé dessus et a montré qu'au contraire, il existait dans différents espaces, sur différents continents, sur différentes formes de ressources, ressources naturelles, ressources en eau, des règles communes qui étaient construites pour une gestion durable des ressources. Donc le raoui se rapproche de ces formes communautaires de gestion d'une ressource. Et c'est extrêmement intéressant parce que quand on pense aux aires protégées, et notamment aux aires marines protégées, la grande question, c'est l'efficacité et l'appropriation de ces formes par les populations locales. Et donc, cette gestion communautaire des ressources, elle est mise en avant pour à la fois cette pertinence, comment bien gérer un territoire bien compris, pour son efficacité, parce que la crainte des sanctions, soit par le sacré, soit par le contrôle social, mais aussi son efficience. Il n'y a pas besoin de mettre des bateaux de surveillance derrière chaque bateau de pêcheur. Et donc, on a des formes qui fonctionnent bien. Toute la question après, c'est ces hybridations, ces articulations avec des formes plus nationales, étatiques, entre ces communautés et puis des hybridations à différentes échelles.
Pour une des rares fois où le jury du prix Nobel a accordé le prix Nobel d'économie à une femme, on voit que ça a eu une importance fondamentale pour l'humanité. On ne connaissait les Marquises que pour les chansons de Brel. Désormais, grâce à vous, Frédéric Schulz, on les connaîtra aussi pour le Raoui. Merci beaucoup.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Frédéric Schulz, anthropologue, directrice du département Hommes et Environnement et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que Nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que Nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que Nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.